à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, troisième volet de notre série sur le lobbying et les régulations. Ce matin, la fabrication de l'ignorance. Annie Thébaumoni, voilà deux semaines maintenant qu'on explore les coulisses des réglementations qui se font, qui se tissent à Bruxelles, et qu'apparaît de plus en plus nettement cet énorme travail de la part des lobbies, d'une manière générale, mais malheureusement assez volontiers accueilli par les institutions européennes, cet énorme travail qui consiste à, non pas entretenir, mais même fabriquer de l'ignorance, et en particulier sur les sujets scientifiques. Alors c'est assez paradoxal quand on pense que la science est aujourd'hui censée être au cœur des décisions politiques du fait de l'avancée des technologies qui sont aujourd'hui mises sur le marché avant même d'avoir été testées, les technologies, les produits, tout ce qui est effectivement au cœur de nos sociétés aujourd'hui. C'est paradoxal parce qu'on dit que la science est au cœur des décisions politiques et dans le même temps, on s'aperçoit que la science est d'une certaine manière en permanence contrecarrée, niée, reléguée dans des coins, soumise à des fausses controverses et que du coup, on se retrouve face à des gens qui prennent finalement des décisions parfaitement politiques et pas du tout scientifiques. Alors, il y a même un mot pour ça, c'est l'agnotologie, c'est Robert Proctor, l'Américain qui avait forgé ce concept. Agnotologie pour non-connaissance, la science de la non-connaissance, en quelque sorte. Alors vous, vous avez, au cours de votre carrière comme chercheur à l'INSERM et au cours de votre long combat jusqu'à aujourd'hui comme militante sur énormément de sujets liés à la santé, je me souviens de votre livre « Attention, le travail peut nuire gravement à la santé » et puis plus récemment « La science a servi », vous avez largement exploré ces territoires-là. On en a parlé sur un plan, je dirais, politique et pratique, c'est-à-dire comment est-ce que ça se passe concrètement entre deux petits fours et dans des couloirs. Mais du côté des scientifiques, comment est-ce qu'une telle chose est possible et quels exemples est-ce qu'il y a eu? Enfin, les exemples, on les connaît, mais j'aimerais peut-être, en vous appuyant sur ces exemples, que vous nous redisiez ce qui s'est passé au cours de ces dernières décennies.
Je vais reprendre le premier exemple dans tout ça, qui est celui du plomb, parce que c'est vraiment celui qui a été très très bien documenté par des collègues historiens américains et qui montre véritablement le rôle actif des scientifiques dans leur propre asservissement quelque part. Le plomb est un toxique qui était absolument indéniablement connu comme un poison depuis 17e, 18e siècle au moins, voire avant, mais en tout cas certainement à la fin du 19e, début du 20e. Et début des années 20, les industriels de l'automobile cherchent un additif pour empêcher le cliquetis du moteur qui à l'époque gênait les potentiels chauffeurs de voitures de ces automobiles qui commençaient à se répandre. Et du coup, ils vont faire un tas de tests et ils tombent, je ne sais pas par quel mécanisme exactement, sur un produit qui est un dérivé du plomb, le plomb tétraéthyle. Et très rapidement, pour des raisons alors purement financières et d'opportunité, ils décident de retenir ce produit alors que la toxicité est indéniable. Et il est connu, le plomb tétraéthyle, pour sa toxicité. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire ce choix pour empêcher que ce soit l'alcool qui soit l'additif, parce que ça mettait en concurrence pétrole-alcool. Donc, le PTE, le plomb tétraéthyle, est choisi. Ils commencent à le produire. Des responsables de santé publique américains commencent quand même à dire « attention, il y a peut-être des problèmes, etc. » Et là, c'est d'abord un ingénieur de la firme Dupont de Nemours qui commence à affirmer que non, ça va, tout va très bien, même si lui est atteint de saturnisme. Mais ils vont rechercher un médecin, un toxicologue, enfin quelqu'un qui est en recherche de reconnaissance universitaire. Ils vont le payer un pont d'or et ça va durer 50 ans. Et pendant 50 ans, ce monsieur Robert Kehoe va proclamer que le plomb dans l'essence à faible dose ne fait aucun dégât. Et sa position dans une université américaine fait qu'il devient l'autorité de service, je dirais, par rapport à protéger l'industrie automobile, l'industrie du plomb et l'industrie pétrolière, en disant « il n'y a aucun problème ».
Sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour dire ça, dans la mesure où vous dites que le danger était déjà avéré? Est-ce qu'il a fait des études, des analyses? Et dans ce cas, il s'agirait de faux?
Alors, il n'a pas fait d'études. Et les rares études qu'il a faites sont absolument pas rigoureuses. Très longtemps après, il y a eu des débats autour de ces études, mais très rapidement, elles ont été complètement disqualifiées. Le propre de cette démarche, c'est en fait, à partir du moment où c'est quelqu'un qui a pignon sur rue dans l'establishment scientifique, on ne le questionne pas sur la rigueur de ses études. Il peut dire les choses. Alors, je vais sauter dans le temps. Donc ça, c'est le plomb. Et après, il y a des scientifiques rigoureux qui auront, eux, des problèmes parce qu'ils disent effectivement que le plomb dans l'essence est dangereux. Et c'est eux qui seront sanctionnés par les institutions officielles. Je prends l'amiante. L'amiante, en fait, les industriels font faire les études par des scientifiques et des médecins qui acceptent de mettre les études sous le coude. Dans les années 30. Dès les années 30, on a tout sur les effets sanitaires de l'amiante. Dans les années 50, Christopher Wagner, en Afrique du Sud, découvre le mésothéliome, le découvre grâce à un médecin de campagne dans les mines du Cap, qui a fait vraiment les observations concrètes de terrain. Et Wagner, à la suite de la publication dans un... Enfin, il y a un congrès à Johannesburg, il présente ses données. Et le mésothéliome, quand même, ça commence à sortir dans l'espace public. Wagner quitte l'Afrique du Sud, est recruté dans une unité de recherche sur les pneumoconioses en Grande-Bretagne. Et à partir de là, son discours sur l'amiante devient lénifiant. Et il travaillera... sans jamais mettre en cause complètement l'amiante en parlant, en noyant un peu le poisson. Mais c'est quand même une sommité. Donc, à partir du moment où un Wagner ne dit plus la même chose que ce qu'il disait, c'est déjà très embêtant. Mais là où, en Angleterre, ça a été beaucoup plus grave, c'est quand Richard Doll, donc le grand épidémiologiste dont les publications sont absolument partout dans tous les manuels de santé publique planétaire, prend le problème de l'amiante à bras-le-corps. Dans un premier temps, il fait un travail avec un médecin du travail qui avait toutes les données et qui montrait bien qu'il y avait des cancers. Et Doll, à ce moment-là, est dans la position de dire « bah oui, il se passe quelque chose ». Et puis, il se bagarre même pour publier ses données, parce que là, l'enquête a été faite avec la direction de Turner & Newell, la firme d'amiante anglaise. Et puis, à partir de là, on voit Doll, d'une part, avoir une carrière fulgurante du point de vue universitaire. Il a un des postes les plus prestigieux de la santé publique en Grande-Bretagne. Et son discours change, là. Et on sait qu'il reçoit... Enfin, il est en contact avec les establishments de l'industrie de la chimie. Il va même aller plaider contre un chercheur australien sur la dioxine, enfin sur l'agent orange au Vietnam, par rapport à la reconnaissance d'un vétéran australien. Et il va même chercher à disqualifier ce chercheur. Même chose dans le nucléaire, il soutient une hypothèse qui est complètement absurde d'un virus inconnu qui est recontaminé des enfants qui font des leucémies autour du site de Sellafield. Or, on sait que le site de Sellafield, il y a quand même eu beaucoup de fuites, quand même. Hein, une usine de retraitement un peu comme la Hague. Et à un moment donné, il est appelé par les autorités américaines pour faire un état des lieux de la relation causale par rapport au cancer. Qu'est-ce qui provoque le cancer ? Et là, il a un article, enfin, qui fait 80 pages, donc c'est plus qu'un article, mais qui a été publié sous forme d'article, d'un travail statistique qui est absolument surprenant, où il ne reprend qu'une partie des données, et toujours celles qui vont dans le même sens, c'est-à-dire les données sur le tabac, sur l'alcool, sur, disons, pour dire vite, les comportements individuels, y compris d'ailleurs les comportements sexuels, ce qui est assez surprenant. Et de tout ça, il arrive à la conclusion que les cancers professionnels et environnementaux représenteraient moins de 3% de tous les cancers. Et cette statistique est devenue l'évangile de tous les épidémiologistes partout dans le monde. Encore aujourd'hui, on évoque ce fameux 3%. Et pourquoi est-ce qu'elle l'évoque encore aujourd'hui ? Parce qu'en 2007, les académies de sciences et de médecine françaises ont fait avec... Alors, sous couvert du Centre international de recherche sur le cancer, qui a quand même mis dans le document que ça n'engageait que les auteurs du rapport, hein, ce qui veut dire que quand même ils s'en démarquent un petit peu quand même, mais pas complètement. Hein. Ils ont fait un travail qui est exactement l'équivalent de ce qu'avait fait Dole en 81. Donc 81-2007, c'est comme si il ne s'était rien passé. Comme s'il n'y avait pas des cancérogènes partout, comme si les pesticides n'avaient pas explosé, comme si on n'avait pas 90 millions de substances chimiques partout. Et là, ils redisent la même chose. Donc, alors, les commanditaires sont des gens qu'on connaît bien, comme Tubiana Orango, j'ai plus les noms en tête, mais...
Là, vous parlez de scientifiques.
De scientifiques, de médecins et de scientifiques qui sont académiciens des sciences ou académiciens de médecine et qui reprennent cette même démarche, le font à partir d'un nombre ridicule de publications et aboutissent à la même conclusion qu'il y aurait moins de 3% de cancers dus au travail ou à l'environnement. Et ces données sont considérées comme la science officielle. Et lorsque, dans des études comme celle de l'équipe de recherche que j'ai contribué à créer, qui continue avec une enquête permanente en Seine-Saint-Denis, où sur plus de 1000 patients maintenant, on a 84% lourdement exposés à des cancérogènes, la réaction de nos collègues, c'est plutôt de remettre en cause le caractère scientifique du travail qu'on fait, et non pas de s'interroger sur ce fameux pourcentage issu ce que j'appelle une malhonnêteté scientifique.
Alors c'est peut-être ça qui est le plus difficile à comprendre, Agnété Bomoni, qu'il y ait des personnes plus sensibles que d'autres à l'attrait de l'argent et du pouvoir, c'est une évidence. Et on peut, je dirais pas comprendre, mais on peut admettre intellectuellement que... un nombre, somme toute, assez important de scientifiques aient pu accepter de devenir des malfaiteurs de l'humanité pour leur profit personnel. Mais ça demande aussi qu'il y ait tout un appareil autour, qu'il y ait toute une organisation, toute une mise en place d'une certaine conception de la science, enfin conception et mise en œuvre de la science. Et c'est là qu'on a besoin de comprendre aussi ce qui a bien pu se passer.
Alors, c'est toujours plus complexe que ce que ça n'en a l'air, même quand on raconte rapidement comme ça. Parce que, à l'intérieur de l'institution scientifique, vous avez des rapports de domination. Alors, chacun le traduit un peu dans son langage. Je vais faire référence à un philosophe de la science et sociologue de la science qui s'appelait Kuhn, qui a écrit « Structure des révolutions scientifiques » et qui explique la notion de paradigme. Et je crois que c'est très important d'aller jusque-là, parce que, en fait, le paradigme, c'est ce qui est considéré comme cohérent par rapport à la représentation de la réalité que veut instruire la science, en fait.
C'est-à-dire qu'on se ferait une certaine représentation de la réalité et qu'ensuite, on chercherait les paradigmes et les preuves qui iraient dans ce sens-là ?
C'est, en fait, la représentation se construit à partir de postulats et d'hypothèses en lien avec ces postulats. Les postulats étant, le cancer est lié au tabac. Le postulat, c'est celui-là. Et donc, toute la science va partir sur ce postulat. Et si un scientifique veut se mettre en contradiction avec ça, avec ce postulat, il va falloir qu'il trouve les outils et la rigueur pour le faire. Ce qui est ce que font, si je reprends l'exemple du plomb, qui est plus simple encore, le premier chercheur qui s'est opposé à l'establishment Robert Keohey et les universitaires qui marchaient tous dans « non, non, il n'y a pas de souci », c'est un chercheur, un géochimiste, qui a fait un travail très simple. Il a regardé la charge en plomb dans les os de squelettes du paléolithique. Et puis, il a regardé l'homme moderne. Et là, il a montré que la charge en plomb avait été multipliée par, 1000, quelque chose comme ça. Et qui est-ce qu'on a mis en cause ? Pas le fait de ce que les autres racontaient, quelque chose qui n'était pas fondé sur du réel. C'est lui qui a été mis en cause. On lui a même interdit, on lui a tout simplement supprimé son poste. Le second, dans le plomb toujours, qui a mis en évidence une relation très significative entre un déficit de quotient intellectuel chez les enfants et le taux de plombémie dans le sang, donc le taux de plomb dans leur sang, Nedelman, il s'est fait pendant tout un temps interdire d'accès à ses propres documents dans l'université où il était. Il ne pouvait rentrer dans cette université qu'avec un garde et pendant tout un temps il n'a pas pu travailler. C'est-à-dire que quand le postulat a construit une représentation dominante, qui est celle que le plomb, pas de souci. Ceux qui s'opposent à cette version-là, je dirais, à cette représentation, sont a priori suspectés. Parce que, il y a, alors ça c'est Bourdieu qui l'explique très bien, Bourdieu il explique comment les rapports de domination sont extrêmement présents en faisant que les paradigmes portés par les dominants sont la science normale. Et moi, je peux dire que le paradigme du tabac, je n'ai jamais pu parler des cancers professionnels sans ajouter dans mes questionnaires, etc., une question sur le tabac. Et un exemple, une anecdote, mais que je trouve intéressante, quand il y a eu l'expertise collectif sur l'amiante par l'INSERM en 95-96, le comité des experts ne comportait pas Henri Pezra, qui était le seul chercheur en recherche fondamentale en toxicologie à travailler sur l'amiante. Et en fait, nous étions même les deux seuls chercheurs à travailler sur l'amiante, lui d'un point de vue toxicologique et moi en santé publique sur le non-recours au droit de la reconnaissance en maladie professionnelle. Je téléphone à mon collègue pour lui dire, quand même, pourquoi on n'y est pas dans le comité des experts, alors que c'est quand même Henri qui est celui par lequel cette histoire vient sur la table, et qu'en plus, c'est le seul à vraiment connaître à fond la question. Et le collègue en question m'a dit, mais Annie, toi et Henri, vous êtes beaucoup trop engagés. Et j'ai dit, engagés, et les autres, là, Bignon, Brochard, Ameille, etc., qui sont dans le comité d'expertise, ils sont engagés aux côtés des industriels dans le comité permanent amiante, parce que ça, on le savait. Et il m'a répondu, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Il était embêté, évidemment, le collègue. Mais c'est dire que lorsque un Richard Doll dit, il y a 3% de cancer et pas plus qui sont liés au travail et à l'environnement, la messe est dite. Et c'est après toute l'institution qui fonctionne avec, par exemple, des crédits qui vont être, même des crédits publics qui vont être beaucoup plus attribués à de la recherche qui porte sur le tabac qu'à de la recherche qui porte sur les cancers professionnels. Là, actuellement, mon équipe de recherche, qui est la seule à faire le travail d'enquête systématique auprès des patients atteints de cancer, s'est vu un budget réduit, parce que les financeurs publics ont décidé d'abaisser le montant de ce qu'ils donnaient auparavant. Donc on est dans cette situation où les rapports de domination au sein de l'institution construisent le paradigme du doute, cette fameuse production de l'ignorance. Mais ce paradigme du doute, ça va bien au-delà des industriels qui financent des scientifiques et qui leur dit si les résultats sont pas conformes à ce qu'on veut, c'est la mise en route de tout un système, y compris avec le fait que les chercheurs sont évalués par rapport à leur publication, que publier dans les revues, par exemple, d'épidémiologie, si vous n'êtes pas sûr des thèmes dominants, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés que si vous racontez, je sais pas quoi, le tabac dans n'importe quelle communauté ou par rapport à n'importe quel autre cancer. Et même quand c'est des cancers qui, ouvertement, n'ont rien à voir avec la respiration, enfin les mécanismes d'action du tabac, ils vont encore rechercher comment, par quel biais, ce serait le tabac qui pourrait entraîner ce type de cancer.
On comprend bien, en vous écoutant, Annie Thébaumonnier, à quel point le paradigme est essentiel. C'est le point de départ, c'est le socle sur lequel, en effet, ce système va pouvoir s'appuyer et continuer tranquillement son chemin pour le plus grand bénéfice d'un petit nombre et pour le plus grand malheur de la santé publique, d'une manière générale. Mais alors, que dire de tout cet appareillage, cet outillage qui est celui de la science, qui est en permanence brandi comme un outillage précis, un outillage objectif, un outillage qui a été orchestré, organisé, imaginé, conçu, fabriqué pour empêcher au maximum les erreurs dans lesquelles on traque la plus petite difficulté ou la plus petite absence de virgule en bout de nombre à 7 chiffres. On est en permanence soumis à l'affirmation que la science, c'est ce qu'il y a de plus exact, de plus précis et de moins sujet à interprétation erronée. Et là, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas du tout ça. C'est vraiment un château de sable.
Je crois effectivement que c'est un château de sable. Je dirais que le plus grave, c'est qu'effectivement, les statistiques sont devenues l'alpha et l'oméga de la science. Comme si aucune possibilité de connaissance, aucune autre production de connaissance, ne pouvait avoir le même poids dans l'espace public. Dans l'espace de la science d'abord et dans l'espace public ensuite. Et en réalité, les statistiques sont un outil très utile dans un certain nombre de circonstances, mais en même temps un outil qui occulte. Pourquoi ? Parce que je vais prendre un autre exemple qui est celui de la radioactivité et de ce qu'on sait sur la relation radioactivité-santé en prenant appui sur ce qu'on sait sur le cancer de la thyroïde. Il y a toute une controverse actuellement au Japon, mais bien au-delà, sur le fait que l'épidémie de cancer de la thyroïde qui apparaît après Fukushima, notamment dans le nord-est du Japon en particulier, mais probablement de façon plus atténuée même au sud, serait purement lié au problème du dépistage. Et que, en fin de compte, c'est parce qu'on aurait mis en place un dépistage par échographie qu'on verrait maintenant une épidémie de cancer de la thyroïde.
Ils étaient toujours déjà là.
Alors, d'une part, les cancers de la thyroïde, il y a une augmentation. Et alors, pire que ça, la comparaison qu'ils font entre Fukushima et Tchernobyl conduirait à renforcer l'hypothèse que ça ne pourrait pas être la radioactivité qui soit responsable de ces cancers de la thyroïde. On en est là quand même. C'est quand même grave. Donc, moi, j'ai regardé les données les plus précises qu'on ait sur les cancers de la thyroïde à Tchernobyl. C'est tous les travaux qui ont été faits, qui sont refusés par les grandes institutions, l'OMS, l'UNSCARE, l'AIEA, les garants de la science officielle, hein, ils n'ont pas voulu en tenir compte dans les évaluations qui sont faites des conséquences de Tchernobyl. Alors, il y a des publications qui ont été faites, dont la plus importante en 2009 est la traduction en anglais de toutes les publications ukrainiennes, biélorusses et russes sur tout ce qui s'est passé après Tchernobyl sur le plan de la santé. C'est un ouvrage absolument remarquable et qui vient d'être traduit en français. Si on prend le cancer de la thyroïde dans les différents pays, ils font pays par pays l'observation de ce qui s'est passé. Et avec le même nuage de Tchernobyl, on a des situations un peu différentes dans les différents pays. Et si on prend ce qui se passe en France avec Tchernobyl, le nuage de Tchernobyl est passé plutôt sur le sud-est, mais aussi sur Champagne-Ardenne. Et probablement avec non pas seulement de l'iode 131, mais d'autres radioéléments qui peuvent avoir contribué à la survenue d'une épidémie d'atteinte thyroïdienne en Champagne-Ardenne, qui est documentée. Et en fait, quand Yaboklov et ses collègues là, de Russie, Biélorussie, etc., regardent avec attention les données de chaque région, etc., ils constatent que les données de Champagne-Ardenne sont tout à fait parallèles avec les données de Biélorussie. Ça, personne n'en parle. Il y a, du point de vue des institutions officielles, un espèce de surplomb. C'est ce que j'appelle l'épidémiologie hors sol. C'est-à-dire qu'à force d'avoir besoin de grand nombre, on oublie de regarder qu'il y a une hétérogénéité et que cette hétérogénéité est beaucoup plus proche de la réalité que ces statistiques en surplomb qui travaillent à partir de moyennes. Alors, sur des grands nombres, pour certains types de phénomènes, c'est très utile, évidemment, d'avoir des statistiques. Mais ne faisons pas dire aux statistiques ce qu'elles ne peuvent pas dire. Et lorsqu'on est sur des phénomènes aussi, d'abord aussi graves, mais aussi difficiles à comprendre, et je vais expliquer pourquoi, que les liens entre radioactivité et cancer, à ce moment-là, on prend des précautions. Et on ne dit pas que la science a dit ça. Pourquoi c'est complexe ? Parce que pour bien comprendre ce qui se passe, il faudrait, un, avoir une évaluation extrêmement précise de la contamination radioactive et de son évolution dans les zones concernées, radioélément par radioélément. C'est-à-dire que, et notamment à Fukushima, il y a du plutonium en pagaille. On ne sait pas où il est, il n'est pas mesuré, donc comme ça on est sûr de... Bon, mais on ne l'a pas mesuré. Le césium, on ne l'a pas mesuré. On le mesure peut-être, mais personne n'en sait rien. Et en tout cas, les mesures sont manifestement pas mises en débat pour qu'on puisse valablement en discuter. Ensuite, il faudrait connaître le mécanisme d'atteinte toxicologique pour chaque radioélément par rapport aux différents organes et notamment par rapport à la thyroïde. Ce qu'on a de façon extrêmement frustre parce qu'il y a eu très peu de recherches toxicologiques ou biologiques là-dessus. Ensuite, il faudrait connaître, pour chaque personne qui est atteinte de cancer de la thyroïde, remonter sur tout ce qui s'est passé pour lui depuis sa naissance, pour savoir s'il y a eu des contaminations avant, s'il y a des facteurs de risque différents, enfin, quelque chose d'extrêmement détaillé. Et même avec ça, c'est très difficile de dire autre chose que ceci. La radioactivité subie à Fukushima a sûrement contribué à l'émergence de cette atteinte. C'est tout ce qu'on peut dire pour un individu donné. Mais si on avait les observations pour tous les individus sur ces trois registres-là, alors on pourrait probablement, et prendre ensuite le quatrième, et moi je dis souvent que c'est bien connu, c'est de prendre la température qui donne de la fièvre. Donc à ce moment-là, on casse tous les thermomètres et puis personne n'a... fièvre et le problème est réglé. Hein. Donc, l'échographie n'est que un outil qui permet une détection précoce d'un phénomène qui, de toute façon, va apparaître dans le temps. Dans un séminaire qui a eu lieu récemment, donc au début de la semaine, j'ai été très choquée d'entendre un professeur de santé publique dire que ça ne pouvait pas être la radioactivité sans qu'il démontre ce qu'il dit et ajouter qu'il ne fallait pas continuer à faire du dépistage systématique. Pourquoi ça me choque ? Parce que d'abord, ça permet de soigner les gens plus précocement et donc ça évite quand même des morts. Et puis d'un point de vue collectif, on a la nécessité d'asseoir les stratégies de santé publique sur une connaissance de la réalité et une connaissance le plus approfondie possible. Alors que là, lui plaidait l'inverse.
Cécile Hassanu-Mabrisse, vous avez rencontré il y a déjà quelques années, vous étiez venue nous parler des données que vous étiez en train de collecter sur la catastrophe de Fukushima. Vous êtes sociologue, vous vivez au Japon, vous êtes chercheur là-bas dans le cadre du CNRS et vous n'aviez pas particulièrement d'intérêt pour toutes ces questions de nucléaire ou autres. C'est l'histoire qui a fait que vous vous êtes engagé pleinement dans cette catastrophe et surtout le sentiment que vous aviez à l'époque et que vous nous aviez exprimé de manière très forte, je me souviens, de cette chape de silence qui entourait ce qui se passait et de la difficulté qu'il y avait à creuser des tunnels pour arriver à trouver, à collecter des informations et surtout à les rendre disponibles. Puisque même si les informations existaient, elles étaient toujours derrière une sorte de voile assez épais. Au mois de novembre, s'est tenue à Paris la conférence inaugurale du Collège international du nucléaire que vous avez contribué à fonder. Une conférence qui s'est tenue dans les locaux de l'Institut des systèmes complexes à Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que ce collège? Et peut-être pourriez-vous nous raconter l'histoire de sa constitution?
Alors, si vous le permettez, je vais revenir juste un tout petit peu sur ma position. Moi, il se trouve que je suis adjointe au directeur du bureau de représentation du CNRS en Asie du Nord, qui se trouve à Tokyo. Donc, effectivement, pendant les événements, j'étais là-bas. Je suis restée là-bas, puisque j'y vivais. Et j'ai donc été assez rapidement confrontée, comme vous le rappeliez, à la question des données. Et au-delà de cette question des données, à ce que t'es le nucléaire et ce que ça engendrait dans la façon de communiquer les données. J'étais assez perturbée dès le départ de noter un décalage qui existait entre les discours que vous aviez ici en France et les discours que l'on avait au Japon. C'est-à-dire que les gens avec qui j'étais en contact en France me disaient que le gouvernement japonais nous mentait et qu'on avait plus de données qui existaient ici en France. Or, moi, je me suis aperçue que l'IRSN, qui était donc la principale base d'information ici en France, comme il n'avait pas le droit de faire de contre-expertise à l'époque, ne faisait qu'une traduction de la homepage de TEPCO qui était en anglais et dont nous avions également tous connaissance au Japon. Donc à partir de ce moment-là, ça m'a renvoyé à une question beaucoup plus générale sur qu'est-ce que la sincérité de recherche. Quand on est chercheur, qu'est-ce que ça veut dire que d'être chercheur et qu'est-ce que ça veut dire que de transmettre des informations que l'on peut estimer comme n'étant pas juste, en faisant croire à sa population qu'elle est juste et en faisant croire à la population que via ces informations, on les protège.
Mais à quoi ça rime?
Ça rime à dire « nous, on maîtrise, pas eux ». C'est ça que ça veut dire. Et à partir de là, on peut élaborer toute une manipulation qui a été faite d'ailleurs par la suite. C'est-à-dire, par exemple, quand on relève le taux d'urgence à 100 millisieverts, ça veut dire que l'ancien taux d'urgence qui était à 20 millisieverts devient le taux estimé comme normalement acceptable par l'ensemble de la population, dont des enfants. Et quand on le passe à 250 millisieverts pour les travailleurs, il passe donc en un taux à 100 millisieverts comme acceptable normalement pour ces travailleurs du nucléaire.
Moi, j'ai besoin qu'on revienne un peu en arrière, Cécile Hassanu-Mabrisse. Est-ce que ces informations, qui étaient donc les mêmes finalement au Japon et en France, étaient des informations corroborées ou bien est-ce que vous avez des doutes déjà sur la qualité de ces informations-là et surtout, qu'est-ce qu'au Japon on faisait avec ces informations-là?
Ce qui s'est passé au Japon, c'est que lorsqu'il y a eu l'accident, très très rapidement, il y a eu des doutes émis par la population. D'une part parce que l'évacuation ne s'est pas du tout faite correctement. Il y a eu des situations de panique extraordinaires. Les gens se sont dit, il faut qu'on prenne la gestion de la situation en main, parce que nos vies sont en danger. Donc, ils se sont montés en réseau, comme le niveau d'éducation au Japon est quand même assez élevé. Très, très rapidement, ils se sont informés sur comment mesurer l'irradiation dans l'environnement, etc. Et ils ont très, très vite acheté donc des instruments de mesure, fait des cartes de répartition de la radioactivité, etc., qui leur a permis de fonder des bases de données qui venaient contrecarrer les informations qui étaient données officiellement, à la fois par le Japon et donc par la France aussi.
Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur cette question des taux qui ont été fixés, les seuils, les fameux seuils qui avaient été fixés d'abord à 20, puis à 100, puis à 250. Je voudrais comprendre, Cécile Hassan-Humabrice, quel lien vous faites entre le relèvement des seuils d'exposition à l'ennemi et les morts, les décès qui sont annoncés. Est-ce qu'il s'agit de morts foudroyantes, de gens qui ont été exposés de manière inopinée à des taux tout à coup bien supérieurs? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
C'est extrêmement intéressant comme question. Parce que ça peut nous amener à conclure que finalement, ce sont les taux qui tuent. Alors qu'on fixe des taux pour nous protéger, en tous les cas, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des personnes qui pensent qu'on est dans l'incapacité méthodologique de recherche de pouvoir fixer des taux, dont on pourrait dire qu'en deçà de ces taux, il n'y aurait pas de conséquences sanitaires. Il y a toujours une conséquence sanitaire d'une irradiation, quel que soit le taux. Quand vous êtes irradié, que ce soit par des radios dans le secteur médical, etc., hein, on a beaucoup de maladies qui se développent parce que votre corps s'affaiblit, donc votre système immunitaire s'affaiblit, etc., etc. Ça touche le corps dans son ensemble. Bref, je reviens à cette question des taux. Donc, on se sent rassuré tout de même lorsque le gouvernement nous dit « c'est un point de repère pour nous ». Au-dessus de 1 millisievert, il y a des problèmes, en deçà, il n'y a pas de problème. Donc, on met la base à 1 millisievert. Sauf que donc, comme vous le précisiez, quand il y a problème, on augmente cette norme. On l'a augmenté également dans l'alimentation. Au départ, au Japon, on avait un taux de 100 becquerels par kilo, c'est-à-dire un taux très faible par rapport à ce que l'on a ici en France, où on se sent tout aussi protégé par ces normes. Et je vous rappelle que la Commission européenne est encore d'augmenter encore les taux acceptables dans l'alimentation pour toute l'Europe. Nous, au Japon, en tous les cas, ça c'est sûr, on était à 100 becquerels par kilo. Au moment de l'explosion, on est passé à 500. Comme si brutalement le corps humain devenait plus résistant. Et puis on a rebaissé à 300 pour revenir à 100. Et alors une petite anecdote qui a fait sourire en coin pas mal de citoyens qui ont développé, je vous rappelle, un réseau de mesures de l'alimentation pour savoir quels aliments ils pouvaient manger ou pas, justement parce qu'ils ne faisaient pas confiance aux données qui leur étaient fournies par le gouvernement. C'est que lorsque l'on a rabaissé de nouveau les taux, pendant la période où on a augmenté les taux, on a fait venir énormément de produits de l'étranger, dont de la confiture de myrtille de France. Et au moment où on a rebaissé les taux, la confiture de myrtille de France ne passait plus. Ce que l'on voit ici, c'est qu'il ne s'agit absolument pas d'un discours qui serait médicalement fondé. Ce sont des outils politiques de décisions prises en amont pour permettre la continuité du nucléaire, pour une raison ou pour une autre, pour des choix énergétiques, mais pour le moment, ça ne semble plus le propos, donc ça devient de plus en plus clairement pour des choix militaires. Et la réhausse des taux pour le Japon, ça a eu deux conséquences essentielles. La première, qui était, puisque l'on avait opté au Japon pour une poursuite du nucléaire, la décision était prise. Donc il fallait faire en sorte que ça ne coûte pas trop cher, en fait, cette gestion de l'après-Fukushima. Donc il faut montrer que l'on est capable de gérer un accident nucléaire. En cas d'accident, on sait faire. Donc on va réouvrir toute la zone d'évacuation. Je vous rappelle qu'en 2017, donc le gouvernement japonais a déclaré qu'en 2017, on rouvrait la totalité de la zone d'évacuation. Et donc, on faisait en sorte que la population retourne sur ces territoires. Alors, pour les travailleurs, pourquoi on relève à 250? C'est parce qu'on a beaucoup parlé en France de la piscine du bâtiment 4 qui a posé problème, etc. Mais il reste trois bâtiments, n'est-ce pas? Et ces trois bâtiments, on n'en parle plus du tout. Or, ces trois bâtiments, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'en fait, on n'a jamais pu les approcher tellement le taux de radioactivité est élevé. Donc pour pouvoir approcher ces trois bâtiments, eh bien il a fallu admettre un taux de radiation plus élevé, afin de dire qu'on l'autorisait. Et que donc on admettait, mais en même temps c'est un petit peu ironique, mais c'est le fondement de tous nos systèmes d'assurance, on admet un taux de perte sauf que là, il s'agit de pertes humaines. On rappelle donc toutes ces populations à revivre et sur les territoires avec des campagnes publicitaires extrêmement inquiétantes, où on montre une famille gambadant dans les champs avec les enfants, ça y est, tout va bien, il n'y a plus de soucis. Ils ont fait également, et encore, là c'est vraiment de l'ordre de la propagande, c'est-à-dire qu'ils ont fait chaque année ce qu'ils ont appelé des réouvertures à la mer, où toutes les zones où on n'avait plus le droit à la baignade ont été réouvertes. Ils faisaient en sorte que des familles aillent avec leurs enfants sur les plages, et c'était filmé, et c'était montré ensuite aux informations.
Thierry Ribaud, vous êtes chercheur, CNRS et Université de Lille 1. Cécile Assanumabrice nous a donné un certain nombre d'informations effectivement très très importantes. Mais du coup, elle a oublié la question que j'avais posée, qui était qu'est-ce que c'est que ce Collège international du nucléaire que vous avez également participé à fonder. Vous avez donné une communication lors de cette fameuse conférence que j'évoquais, qui s'est tenue en novembre dernier à Paris. C'était une conférence d'introduction dont le titre était extrêmement parlant. C'était « Nucléaire, l'ignorance, c'est la force ».
Oui. Le Collège international du nucléaire que nous avons créé est une initiative qui a un grand nom, mais qui finalement est très simple. C'est que dans le cadre du laboratoire international associé qu'on a créé en 2013 au CNRS, en collaboration donc avec l'université de Kyoto et l'université de Fukushima, on a décidé de mener un cycle de conférences qui a démarré le 9 novembre et qui aura lieu essentiellement en 2016. Il s'agit en fait, dans ces conférences, de mettre en discussion les cadres théoriques, aussi bien que les réalités pratiques du nucléaire, en fait. Et on voudrait développer, à travers ces séances, donc une approche partagée du nucléaire et de la société qui le porte. Il y a un petit jeu de mots, mais qui n'est pas tout à fait gratuit, concernant le Collège international du nucléaire, que nous appelons également en acronyme le COIN. C'est en référence au philosophe Gunther Anders, qui nous disait qu'on ne dispose plus d'un coin à l'écart où on peut bannir les résidus sans empoisonner ce lieu et sans nous empoisonner par la même occasion.
Donc l'ignorance, ce serait la force ?
L'ignorance, c'est la force, c'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis, hein. D'abord, c'est Orwell, dans 1984. Et puis, c'est vrai que malheureusement, cette formule d'Orwell, qui était censée être une formule fictive, en fait, elle prend réalité dans la société nucléaire. Mais je voudrais revenir sur une chose. Cette notion du paradigme de l'ignorance, c'est pas moi qui l'invente, elle est déjà très en vogue aux États-Unis depuis pas mal d'années. Vous devez connaître, bien sûr, tous ces travaux divers et variés, notamment ceux de Robert Proctor qui portent sur...
L'agnotologie.
Voilà, l'agnotologie qui porte donc sur la production d'ignorance dans le domaine du tabac, hein. Alors, c'est marrant d'ailleurs parce que les travaux de Proctor, finalement, ont pas mal percé en France. Et je pense qu'ils ont percé parce qu'ils portaient sur le tabac, en fait. Mais par contre, si Proctor avait fait ses travaux initiaux sur le nucléaire, je suis sûr qu'il n'aurait jamais passé la barrière de la traduction. D'ailleurs, je remarque que tous les gens qui, en France, ont travaillé et ont repris ces travaux de Proctor n'ont jamais, eux-mêmes, passé la barrière et n'ont jamais dit, eh bien, pourquoi on n'appliquerait pas ces travaux à l'univers du nucléaire? Et c'est ce que nous voulons faire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? L'agnotologie, c'est un grand mot, mais c'est simple. Ça signifie, en fait, essayer de réfléchir à toutes ces situations où, en fait, les scientifiques, bon an mal an, sont amenés à, non pas créer du savoir, mais à créer de l'ignorance. Alors, soit par le mensonge délibéré, hein, mais c'est pas finalement le cas le plus courant, mais ça peut être aussi créer de l'ignorance, tout simplement, par exemple, en n'investiguant pas un champ particulier de la réalité, et en le laissant de côté, en le laissant en jachère, comme on dit.
Par exemple.
Alors, le drame, c'est que les exemples sont pléthores. Et le problème aussi, c'est que on est obligé de citer des noms ou des organismes parce qu'on peut pas se contenter de parler comme ça en général. On a des exemples flagrants de production d'ignorance. Alors, on a parlé de la situation japonaise, bien sûr, et des pouvoirs publics japonais. Je dirais presque qui font leur métier, c'est-à-dire ils masquent. À la base, ils ont deux contraintes. C'est d'une part d'éviter le plus possible que les populations s'en aillent, et bien sûr, par conséquent, de ramener le peu qui sont partis. de ramener sur le terrain. Donc c'est vraiment c'est des contraintes quantitatives démographiques. Donc ça, c'est la première grosse contrainte. Et puis leur deuxième défi, c'est, comme Cécile l'a rappelé, c'est de ramener ce que certains appellent de la viande à REM, c'est-à-dire en fait de ramener du travailleur nucléaire dans l'usine qui en consomme à peu près 200 fois plus qu'en fonctionnement normal. Une usine nucléaire accidentée, ça n'a rien à voir avec une usine nucléaire normale. C'est une usine qui consomme énormément de main-d'œuvre. Donc il faudra de la main-d'œuvre pour les 50 prochaines années. Cette main-d'œuvre ne pourra pas être fournie d'ailleurs. Les pouvoirs publics le savent déjà, mais ils essaient quand même, bien sûr, de la faire venir. Donc moi, ça me semble tout à fait cohérent que les pouvoirs publics japonais en soient arrivés à un tel niveau de mensonges et de propagande pour pouvoir relever ces deux défis. Là où c'est moins cohérent, c'est quand on voit des attitudes comme celles qu'on a pointées précédemment de certaines institutions françaises. Mais on va pas se focaliser là-dessus, mais c'est vrai que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en France est assez exemplaire. Là, donc ce qui est assez inquiétant, c'est de voir, dans une situation où en France où nous ne sommes pas en situation d'accident, eh bien de voir des structures comme celle-là fabriquer de l'ignorance de toutes pièces, notamment par exemple, ça c'était un des thèmes du colloque qu'on a organisé hier, c'est de fabriquer de l'ignorance autour des fameuses conséquences sanitaires des faibles doses. Je ne vais pas reprendre dans le détail, mais les affirmations se sont multipliées depuis la catastrophe pour essayer de légitimer ce seuil de 100 millisieverts en France. On n'est pas au Japon, on est en France. Et le colloque que nous avons organisé récemment l'a encore montré, que en fait, ce seuil de 100 millisieverts, c'est une inanité scientifique. Et ce n'est pas moi qui le dis, moi je ne suis pas un spécialiste d'épidémiologie, mais par contre, je fais confiance aux scientifiques, en tant que scientifique moi-même, et les scientifiques sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas de seuil en deçà duquel la radioactivité soit inoffensive.
Les scientifiques ne sont pas tous d'accord, justement, si. C'est bien ça le problème. Bah, non, puisque les scientifiques qui travaillent dans les organismes du nucléaire, eux, prétendent que ce seuil existe.
Tout à fait.
Alors, ce qui me paraît peut-être plus important à souligner, là, Thierry Ribaud, c'est cette capacité à maintenir un état de doute plutôt qu'un état d'ignorance, je dirais.
Oui, bien sûr. Mais de toute façon, générer du doute, c'est une forme de génération d'ignorance. Mais ça, c'est un grand classique aussi, c'est pas nouveau. Il y a un exemple encore flagrant, peu de temps après les événements de Fukushima, lorsque s'est tenu à Fukushima premier grand symposium international d'experts sur la radioactivité et les risques sanitaires. Donc c'était le 11 septembre 2011, alors date symbolique, donc c'était 6 mois après. Un physicien nucléaire sud-coréen, parmi le parterre de scientifiques qui étaient présents, affirme, je cite donc, « La curiosité relative aux effets sanitaires de l'exposition au rayonnement tue plus que le rayonnement lui-même. » Alors, c'est là qu'on voit bien que si vous lisez, si vous comprenez, si vous entendez et comprenez correctement cette déclaration, ça signifie que l'ignorance, c'est la force. C'est ça que ça signifie. Ce qui est quand même très troublant en tant que discours venant d'un scientifique. Puisque la science se fonde au contraire, sur le contraire de cette affirmation. Hein. C'est le savoir qui est la force, c'est pas l'ignorance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact de cette production d'ignorance sur notre conception à tous de la connaissance. Mais le cas des faibles doses et des effets sanitaires des faibles doses, ce n'est qu'un cas parmi d'autres. Eh bien, en fait, on voit bien que dans nos sociétés industrielles, où en fait il y a des secteurs industriels qui sont très très nuisibles quand même, qui en tout cas sont très producteurs de nuisances, eh bien on en arrive à créer une nouvelle définition de la connaissance. Je dirais que c'est une définition presque insécuritaire de la connaissance en fait. Hein. Alors qu'à la base, on est quand même dans des sociétés qui se sont construites sur l'idée que plus nous connaissions, eh bien plus nous nous mettions en sécurité. Or en fait, là, on est en train de s'acheminer vers quelque chose d'opposé en fait. Et ça, c'est une grande caractéristique d'évolution de nos sociétés que tous les débats sur le post-Fukushima révèlent, en fait. Et donc, je dirais que la question, pour moi, c'est de savoir s'il faut donc accepter cette redéfinition de la connaissance, de la notion de connaissance, comme d'ailleurs on est en train d'accepter la redéfinition de la notion de vie, en fait. Hein. Ou au contraire, est-ce qu'on essaye de défendre une conception de la connaissance comme bien public ? Et est-ce qu'on se met, enfin, à passer à une critique de l'ignorance et à critiquer cette pratique qui consiste donc à générer plus d'ignorance que de connaissance, parce que le grand risque derrière tout ça, c'est évidemment le rétrécissement de la liberté, en fait, il me semble. Alors, moi, ce que je voudrais dire aussi, qui me semble assez important, Tout à l'heure, vous avez parlé de chape du silence. En lien avec ce que je viens de dire sur la connaissance et l'ignorance, je crains que nous soyons dans une chape du bruit, en fait, aussi. Hein. Bon, ce qui n'est pas incompatible. Et puis, je voudrais également dire que, avec Cécile Hassanouman, lorsque nous avons fait beaucoup d'entretiens, nous avons fait beaucoup de terrain, on a rencontré des gens divers et variés, soit des gens qui sont restés à Fukushima, soit des gens qui sont partis de Fukushima, soit des gens qui sont partis, qui sont revenus, bref. Mais il y a des choses troublantes qui nous ont été dites et quelqu'un nous a dit, c'est le directeur du cinéma de Fukushima, de la ville de Fukushima, qui lui est parti immédiatement avec sa famille au moment des événements, et puis après, qui est revenu prendre son poste. Eh bien, il nous a dit, bien sûr, on ne peut pas nier les effets sanitaires de la radioactivité, mais il nous a dit aussi, une des choses les plus troublantes, les plus fortes de la radioactivité, c'est qu'elle anéantit les consciences. Et il nous disait aussi, on ne sait plus ce qu'est la vérité avec la radioactivité. On perd la notion de vérité. Et je pense qu'effectivement, le nucléaire est une des technologies productrices de nuisances qui, en fait, révèle pleinement que nous sommes dans une grande période de congestion de la vérité, j'ai envie de dire, hein, et donc de congestion de la liberté. Et que, effectivement, les catastrophes comme celle de Fukushima et comme celles qui viendront après révéleront de plus en plus le fait qu'on est dans une véritable crise de la vérité.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Éric Boisset, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.